7h-9h, Matin Première.
7h45 sur La Première. Ce matin, nous allons parler avec l'invité de la matinale du coronavirus. Les questions que se posent ceux qui nous écoutent à propos du coronavirus.
Rachel Cuvillaro. Oui, c'est avec Herman Gossens, donc professeur de microbiologie à l'Université d'Anvers, mais aussi coordinateur de la plateforme européenne pour la recherche sur les pandémies. Avec lui, on va faire un espèce de gros fact-checking ce matin, Pascal, et répondre aux questions des auditeurs tout de suite maintenant.
Qui peuvent d'ailleurs continuer à nous appeler en formant le 02 737 22 37, 02 737 22 37. Vous allez également sur la page Facebook de Matin Première et sur Twitter en utilisant le mot-clé Matin 1. Et nous accueillons tout de suite René. Bonjour René.
Bonjour.
Bienvenue à vous, on écoute votre question.
Bonjour à tous. Les vaccins PPV23 et PCV13 contre la pneumonie auraient-ils une quelconque efficacité contre le coronavirus ? Merci pour la réponse et bonne journée à tous.
Merci à vous René. Herman Gossens vous répond tout de suite.
Oui, bonjour. Donc c'est un vaccin contre le pneumocoque. Et donc, le pneumocoque, c'est une bactérie qui est responsable pour la pneumonie. C'est certainement un très bon vaccin, mais c'est un vaccin qui n'aura aucune efficacité contre ce virus, ça c'est clair.
Alors, tant qu'on parle de vaccin, faisons le point. Où en est-on maintenant sur la découverte d'un vaccin pour lutter contre le coronavirus ?
Ben, écoutez, il y a plusieurs équipes dans le monde qui ont démarré leurs recherches pour développer ce vaccin. Et donc, il faudra attendre. Je pense que ça va certainement prendre minimum 6 mois, peut-être plus.
Encore attendre 6 mois alors pour avoir quelque chose d'efficace ?
Oui, même si on a un vaccin, il faudra faire des études cliniques pour voir si ce vaccin est effectivement efficace. Donc ça va être, je pense, pour cette année-ci qu'on va pouvoir utiliser ce vaccin.
On va continuer et prendre un nouvel appel au standard et nous accueillons maintenant en principe Frédéric. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, on vous écoute.
Oui, voilà, moi ma question est très simple. Je prends les transports en commun tous les jours à Bruxelles, j'habite à Bruxelles, principalement les métros et les trams. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est d'une possible propagation de ce virus. Quelles sont les mesures qui sont prises ? Parce que comme on est souvent serré comme des sardines dans les voitures, on par la force des choses, on se respire dans la figure les uns des autres. Je voudrais savoir en fait quelles sont les mesures préventives et quelles sont les mesures qui seraient prises par exemple à STIB.
Merci à vous pour votre question. Frédéric Herman Gossens vous répond.
Oui, bon, tout d'abord, je ne fais pas partie de l'autorité pour établir les mesures à prendre, mais il est clair que s'il y a une épidémie dans une région, que le transport en commun peut effectivement avoir peut être responsable dans certains cas pour propager le virus. Mais puisqu'il n'y a pas de cas en Belgique, il n'y a aucun danger, donc il ne faut pas prendre des mesures pour les transports publics chez nous maintenant.
Alors ça revient évidemment à la question de la contamination, de la transmission du virus. Écoutez cette question qu'on a recueillie hier.
À partir de quels symptômes est-ce que je dois absolument consulter et m'inquiéter ? Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, 2 adolescents, donc comment faire pour me protéger, pour éviter une contagion ?
Bon, tout d'abord, les symptômes ne sont pas typiques pour ce coronavirus parce que ce sont les mêmes symptômes pour la grippe. Donc, on ne peut pas distinguer entre quelqu'un qui est infecté par ce virus.
C'est quoi ? C'est la toux, des difficultés
à respirer ? C'est la toux, la fièvre, la toux, peut-être mal de gorge, la fatigue. Donc, vraiment, les symptômes qu'on voit ici chez des patients qui sont infectés par le virus de la grippe. Donc, ce n'est pas du tout spécifique.
Et ouais. Comment ça se passe alors ? À partir de quand cette personne demande ? À partir de quand doit-elle aller chez le médecin ? Doit-elle consulter ? Doit-elle s'inquiéter ?
Bon, si quelqu'un n'est pas très malade, il ne faut pas nécessairement aller chez un médecin. Bon, quelqu'un qui a un peu de fièvre, qui tousse un peu, bon, ben, il ne faut pas trop vite s'inquiéter.
Mais quand s'inquiète-t-on alors ?
Oui. Mais de toute façon, il n'y a pas de cas en Belgique. Donc il ne faut pas s'inquiéter que quelqu'un qui tousse ou qui n'a jamais quitté notre pays, qui n'a pas été en Chine, qui n'a pas été au Japon, qui n'a pas été dans le nord d'Italie, quand quelqu'un qui commence à tousser et qui a de la fièvre, ne doit pas s'inquiéter qu'il est infecté par ce virus.
Donc en gros, il ne doit pas directement aller chez le médecin dès qu'apparaissent des signes avant-coureurs de grippe ou habituellement pour une grippe.
Ben, peut aller chez le médecin, mais il ne faut pas tout de suite penser à ce coronavirus, sauf si cette personne a été dans des régions qui sont infectées pour le moment. Et là, je pense qu'il faudrait effectivement tester.
À 7h50, on va accueillir Dario qui a formé le 02 737 22 37. Bonjour Dario.
Bonjour.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci beaucoup. Voilà, ma question était, pas plus tard que vendredi, avec un groupe d'amis, on doit partir au ski, en Italie, dans un petit village qui est en Lombardie, collé à la frontière suisse. Nous partons quand même avec un monsieur qui a 80 ans, qui avec des enfants qui ont 16-18 ans, et on se demandait, est-ce une bonne idée d'y aller ? Premièrement, y a-t-il un risque de rester bloqué ? C'est pas du tout amusant. Et voilà, d'autant plus que nous avons lu dans les médias, depuis cette semaine, dans les médias italiens, qu'il y avait des suspicions, mais il n'y a pas de cas, mais il y avait des suspicions de coronavirus sur des jeunes du village qui s'appelle Divino, qui étaient dans une école spécialisée au niveau agriculture à Codogno et qui rentraient avec certaines personnes en train, dont une personne qui était infectée.
Restez en ligne avec nous, Dario. On va demander tout de suite à Hermann Gossens ses conseils. C'est délicat.
Oui, ça, c'est très délicat, évidemment. Je pense qu'il faut quand même éviter d'aller dans des régions en Italie où il y a des cas. Certainement, avec quelqu'un qui est âgé, il ne faut pas aller chercher les risques non plus. Honnêtement, je pense qu'il faudrait quand même faire
attention. Et donc, cette personne doit rester en Belgique. Ça, c'est votre conseil. Votre recommandation, en tout cas.
C'est délicat, mais si vraiment c'est une région où il y a eu des cas, je pense que je ne prendrai pas les risques, non, effectivement.
Parce que, justement, vous dites, il y a cette personne âgée de 80 ans, ça veut dire quoi, que c'est vraiment les personnes les plus fragiles dans cette crise ?
Oui, alors là, je voudrais quand même clarifier que j'ai eu beaucoup de contacts avec des collègues en Italie, et ils me racontent tous que les personnes en Italie ne sont pas très malades, donc c'est très différent de ce qu'on a vu en Chine, donc ils sont beaucoup moins malades, mais il est vrai que surtout les personnes âgées, les personnes plus fragiles, sont en danger et les décès qu'on voit en Italie, ce sont surtout les personnes âgées et les personnes
des personnes qui étaient déjà fragiles sur un plan immunitaire, notamment.
Qui étaient déjà très fragiles sur un plan immunitaire, donc ça c'est quand même important de souligner. Et donc la plupart des cas en Italie sont des gens qui ne sont pas très 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 malades. Donc quand je parle avec mes collègues en Italie, ils me disent, mais écoutez Hermann, ces gens ne sont pas vraiment très malades.
Alors on va peut-être s'interroger maintenant sur les personnes qui reviennent de vacances, de ces endroits contaminés, notamment des personnes qui s'étonne qu'il n'y ait pas de contrôle, notamment dans les aéroports.
Est-ce qu'un jour on va pouvoir voyager ? Est-ce qu'on va pouvoir serrer la main de X ou Y personnes ? Est-ce qu'on est en sécurité ? Est-ce qu'on est en danger ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Voilà. Les aéroports sont devenus anxiogènes ? Les gares sont devenues anxiogènes ? Est-ce qu'il faut se méfier des transports publics ?
C'est évidemment quelque chose très difficile à répondre parce que la situation change toutes les heures et donc c'est très difficile. Je pense que personnellement, je trouve qu'il faudrait quand même tester plus les gens qui reviennent des régions où il y a des cas. Et par exemple, chez nous,
ça nous semble bien clair parce que pour le moment, pour les personnes qui reviennent notamment du nord de l'Italie, il n'y a aucun contrôle systématique. On prend pas la température on revient. Mais vous dites qu'il faudrait peut-être quand même y penser.
Moi, je pense qu'il faudrait le faire, oui. Par exemple, chez nous, dans mon labo, on fait le test depuis un mois. Quelqu'un qui, chez nous, aujourd'hui, qui se présente dans notre hôpital, qui était dans le nord d'Italie, qui a des symptômes, même quelqu'un qui n'est pas très malade, on va faire le test, on va le tester, c'est sûr. Oui, ça, je pense qu'il faudrait le faire, oui.
On va accueillir Thierry dans quelques secondes, mais d'abord cette question qui vient de nous parvenir à l'instant sur Twitter via le mot-clé Matin 1. Est-ce que le rôle du moustique existe dans la transmission du coronavirus ? Est-ce que c'est possible ? C'est ce que nous demande Lorraine sur Twitter.
Impossible.
Voilà, réponse c'est claire, nette, précise et très très courte. Et donc nous pouvons maintenant accueillir Thierry. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour monsieur. Voilà, ma question est la suivante, en fait. J'ai lu hier dans la presse qu'en France, sur les 17 personnes infectées, 11 étaient guéries. Mmh. Alors, étant donné que, d'après ce que j'ai lu aussi, il n'existe pas de médicaments antiviraux spécifiques pour ce virus, comment ces personnes ont-elles pu guérir ?
Oui. Parce que la plupart des gens guérissent sans traitement antiviraux, parce que nous avons notre système immunitaire qui va essayer de se battre, et donc la plupart des gens guérissent spontanément.
C'était une question d'ailleurs qui revenait souvent sur Twitter. Est-ce que finalement on n'en fait pas beaucoup avec une maladie qui finalement a un taux de mortalité beaucoup moins élevé qu'on ne le dit, et moins élevé en tout cas que la grippe ?
Mais le taux de la mortalité, pour le moment, c'est entre 2 et 3% pour les cas confirmés. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est sur base des chiffres qui viennent de la Chine. J'ai dit de nouveau 2 à 3% des cas confirmés, parce qu'on sait qu'il y a des dizaines de milliers de gens en Chine qui n'ont jamais vu un médecin, qui n'ont jamais été testés. Donc je pense que la mortalité va baisser énormément, et peut-être la même mortalité que pour la grippe, pour le virus qui cause la grippe.
Mais pour être tout à fait synthétique, le coronavirus est moins mortel que la grippe.
Relativement, le coronavirus est plus mortel que la grippe. La grippe, la mortalité de la grippe, c'est 0,1%. Donc, une personne sur 1000 personnes infectées peut décéder. Mm-hmm. Alors que pour le coronavirus, sur base des chiffres qui viennent de la Chine, c'est deux personnes sur 100.
Donc, avec un focus sur des personnes plus fragiles.
Exactement.
Question qui est revenue à plusieurs reprises ce matin, est-ce qu'on nous dit tout ? Est-ce que les spécialistes, est-ce que les autorités ne nous cachent pas des informations à propos du coronavirus ?
Non, je pense que on a tous été très transparents et honnêtes, et je pense peut-être au début en Chine, ils ont essayé de cacher certaines choses, mais je pense que les Chinois sont très ouverts, ils communiquent énormément sur ce qui s'est passé, ils publient des articles tous les jours dans les journaux scientifiques, donc je pense que, honnêtement, non, je pense qu'on est très, très transparent et ouvert.
Cette réaction à une de vos réponses tout à l'heure, votre médecin nous dit, si vous toussez, que vous avez de la fièvre, mais que vous n'avez pas été dans les régions à risque, il ne faut pas s'inquiéter. Quand même, il y a des exemples concrets, encore hier, quelqu'un qui n'avait pas voyagé et qui est mort dans l'Oise en France.
Qui est mort dans l'Oise,
en France, une région de la France.
Mmh, oui. Mort de quoi ? Du
coronavirus.
Du coronavirus. Ah. Et qui pourtant n'avait pas voyagé, il ne s'était pas déplacé.
Oui. Alors là effectivement, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de discussions sur la propagation du virus en dessous du radar. Et donc, on s'inquiète effectivement qu'il y a peut-être des cas qu'on ne détecte pas, parce qu'il y a la propagation et des gens qui n'ont pas de lien avec les voyages dans des régions endémiques, comme par exemple en nord d'Italie ou en Chine ou au Japon.
On cherche toujours le patient zéro, notamment en Italie.
On n'a toujours pas trouvé le patient zéro, il y a plusieurs hypothèses, on n'a toujours pas trouvé. Donc, ce n'est pas toujours très clair la façon dont la personne a été infectée. Mais je pense que ça, c'est plutôt l'exception, mais il n'est pas exclu que dans quelques semaines, on aura une propagation partout en Europe et que ça va être beaucoup plus difficile de maîtriser.
Mais pour le moment, on ne s'explique pas comment ça peut se propager chez des personnes qui n'ont jamais été dans des régions dites à risque.
Non, je trouve ça très bizarre. Donc, il faut quand même se méfier. Je pense qu'il faudra faire des études épidémiologiques pour de mieux comprendre exactement comment cette personne a pu s'infecter. Donc, je voudrais quand même être très prudent sur ce cas.
Hermann Gossens, on parle maintenant d'une épidémie de coronavirus. Pourquoi pas d'une pandémie ? Quand on regarde la carte, il y a quand même beaucoup de pays maintenant qui sont infectés. Pourquoi on ne passe pas encore à ce stade-là ? Quelle est la différence ?
L'OMS prend trois critères en compte pour décider s'il s'agit d'une épidémie dans plusieurs régions du monde ou vraiment d'une pandémie. Donc tout dépend, ça dépend de l'ampleur, de la gravité. Et puis la propagation à travers du monde, mais non seulement la propagation à travers du monde, mais il faut avoir aussi une propagation locale, comme on voit par exemple en Italie, ou au Japon, comme on a eu en Chine. Et donc l'OMS estime que ce n'est pas encore le cas, et que peut-être les Italiens vont pouvoir contrôler cette épidémie. Et je pense que ce qui se passe en Italie, c'est un moment décisif dans cette épidémie, et donc peut-être que d'ici une ou deux semaines, on va parler effectivement d'une pandémie. Mais maintenant, ce n'est pas encore une pandémie.
Dernière question qui revient tout le temps, Hermann Gossens, vous êtes un spécialiste. Est-ce que vous dites qu'à ce stade-ci, les médias en font trop avec le coronavirus ?
C'est une bonne question, parce que Vous savez, d'une part, on ne veut pas en parler trop parce que sinon il y aura beaucoup de panique. D'autre part, il faut quand même informer les gens. Donc c'est important quand même qu'on informe les gens correctement et sans de créer de la panique, parce que ça ne sert à rien de paniquer.
Eh bien, merci pour la clarté de vos réponses ce matin en direct sur la première. Merci beaucoup, Herman Gossens, d'avoir été l'invité de la matinale ce jeudi matin. Bonne journée. Dans quelques instants, 8h et le Grand Journal.